C'était la première fois qu'on me faisait une radio. Puis là, ben, ça a dit, ben, écoutez, voilà, c'est cassé, c'est fracture de la tête de fémur. Ah ben, je me suis un peu effondré, là. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, quoi. Je savais qu'il y a quelque chose qui jouait pas, mais je me dis, mais voilà, on a traîné plus d'un mois. C'est vraiment, voilà, c'était le coup de massue, là.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24 heures. Peut-être avez-vous déjà entendu cette histoire. Au cours d'un effort modéré, un os lâche, sans choc et sans prévenir. C'est ce qu'on appelle une fracture de fatigue. Elle survient lors d'une contrainte trop importante et répétitive exercée sur les os. Dans 80% des cas, cela concerne les membres inférieurs comme le tibia, le péroné ou le talon qui amortissent les impacts avec le sol. Et il n'y a pas que les sportifs d'élite qui sont concernés. Entre 10 et 20% des consultations de médecine du sport concernent ces fractures de fatigue. Laurent l'a découvert à ses dépens il y a 9 ans. Cet amateur de grandes courses populaires avait alors entamé les 10 km de Lausanne avec panache.
J'avais déjà un petit peu des douleurs. Je mettais ça un peu sur le compte peut-être un peu de surentraînement ou comme ça. Le jour de la course, je me suis échauffé, je suis parti. Et après 1,5 km, 2 km, j'ai vraiment senti que ça commençait à... Il y a quelque chose qui ne jouait pas, quoi. J'arrivais pas à définir quoi. Et à peu près à 2,5 km, 3 km, je me suis arrêté parce que ça n'allait plus. J'arrivais plus à courir, quoi. J'ai marché. J'essayais de marcher, mais après, j'arrivais même plus forcément à marcher. Donc, je sautais sur un pied. Malheureusement, pas de Samaritain dans le coin. Et puis, j'ai rallié l'arrivée tant bien que mal. Et puis en fait, les copains, ils avaient la voiture tout près. Je suis monté dans la voiture, puis j'ai pas été au SAMA, j'étais directement à l'hôpital aux urgences. Eux, que je suis arrivé, bien sûr, on arrive aux urgences, on tombe sur un médecin assistant. Hein. Pour lui, il partait sur une tendinite. Et puis bon, je dis voilà, une tendinite, d'accord. Alors laissons faire le temps, ils m'ont donné un arrêt de travail. Voilà, des tendinites, j'en avais déjà eu, mais jamais à cette localisation, donc j'ai pas fait, j'espérais que c'était ça, puis pas rien de plus, quoi. Et puis là, je suis ressorti, donc ils m'ont donné des cannes, j'avais jamais marché avec des cannes, j'ai fait un faux pas, et là j'ai eu très très mal. Je dis je savais qu'il fallait attendre un petit peu, je suis reparti à la maison, je suis arrivé chez moi, ça allait déjà plus, moi, j'ai attendu, je crois, un ou deux jours. On habite à côté d'un EMS, donc ma femme me dit non, mais là, il faut qu'on redescende à l'hôpital. Donc elle était chercher un fauteuil roulant à l'EMS, donc j'arrivais vraiment plus à marcher. On est redescendu à l'hôpital. Et puis j'ai eu un orthopédiste quoi, qui a dit mais une tendinite, ça prend quelque temps, il faut attendre. Et puis bon, ils m'ont donné l'arrêt de travail. Et toujours pas de radio. Je dis on fait confiance au médecin. Quoi. Et puis voilà, donc j'ai attendu, j'avais mon arrêt de travail. Quand j'ai plus d'arrêt de travail, je suis retourné travailler. Mais voilà, on m'aidait, j'ai continué à travailler. Puis après, j'ai pris rendez-vous à de la physio, j'ai pris rendez-vous chez un ostéo. Et puis c'est lui, au bout de quelques jours, a dit non, mais là ça va pas, il faut reprendre rendez-vous vraiment... à l'hôpital, puis là j'ai pu aller à la médecine du sport, mais ça c'était pratiquement le marathon était après le 20 octobre, j'ai plus la date exacte, mais c'est tout début décembre que j'ai enfin été à la médecine du sport. La première chose qu'ils ont fait, donc c'était la première fois qu'on me faisait une radio, puis là ça dit écoutez, c'est cassé, c'est fracture de la tête de fémur. Ah je me suis un peu effondré là. Ouais, je m'attendais pas à ça, quoi. Je savais qu'il y a quelque chose qui jouait pas, mais voilà, non, là, je me dis, mais voilà, on a traîné plus d'un mois. C'est vraiment, voilà, c'était le coup de massue, là.
Le docteur Eric Thein est spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur à la clinique Boissière.
La fracture de fatigue, c'est quand vous mettez des contraintes anormalement élevées, que ce soit en intensité ou en durée, sur un os qui a priori est sain. Si vous faites ça de façon répétitive, chronique, ben, disons l'équilibre que chaque os a dans son métabolisme, c'est-à-dire entre résorption osseuse et reconstitution osseuse, ben, il penche en faveur de la résorption. Donc on aura un déséquilibre en faveur de la résorption osseuse. Donc l'os se fragilise progressivement et va finir à casser à un moment ou à un autre sans qu'il y ait un traumatisme adéquat qu'on a normalement dans une fracture entre guillemets standard ou fracture fraîche.
La première fois qu'on entend parler de ce type de fracture, c'est en 1855 chez les soldats de l'armée prussienne, soumis alors à des marches exténuantes. Et aujourd'hui, l'armée reste un lieu où l'on observe toujours ce type de blessure.
Ça a beaucoup été décrit chez les recrues militaires. Il y a beaucoup d'études finlandaises là-dessus. Peut-être que les Finlandais, ils ont une école de recrues militaires qui est plus stricte peut-être que dans d'autres pays. Bah, des jeunes, a priori en bonne santé, mais peut-être peu sportifs, doivent soudainement faire des marches forcées d'une vingtaine de kilomètres avec leur sac à dos, un fusil d'assaut, etc. Donc une charge assez importante, avec probablement aussi des chaussures qui sont peut-être pas si adéquates que ça pour faire des marches prolongées, et qui soudainement développent des douleurs, donc, où c'est clairement décrit qu'il y en a pas mal qui ont fini avec une fracture du col de fémur, par exemple. Le patient lui-même, s'il a aucune idée de ce que c'est qu'une fracture de fatigue, c'est probablement difficile pour s'autodiagnostiquer. Ce qui est classique dans le diagnostic, ou disons dans la douleur, c'est que elle, contrairement peut-être à une tendinite ou une douleur arthrosique qui est plutôt présente au début de l'activité, quand le corps n'est pas encore chaud ou l'articulation concernée n'est pas chaude, la fracture de fatigue, elle augmente progressivement avec la durée ou de l'intensité, la durée de l'effort, disons. Et elle se calme aussi rapidement après quand on arrête. Ce qui est, par exemple, pour une douleur type arthrose, plutôt le contraire, c'est-à-dire au début, ça fait mal, après, quand l'articulation est chaude, la douleur, elle diminue. Bon, après, si vous continuez à forcer dessus, elle va revenir. Hein, donc, mais le déroulement, il est quand même différent.
Après plus d'un mois d'errance médicale, c'est le soulagement pour Laurent, du moins temporaire. Sa fracture s'est déplacée et il ne connaîtra l'issue de son intervention chirurgicale qu'à son réveil.
Ouais, un mélange entre un soulagement de dire, ben voilà, on a identifié ce qui se passait. Une petite appréhension, parce que j'avais déjà eu d'autres petites interventions. Des fois, le réveil est un peu compliqué. Donc, voilà, rendez-vous avec les anesthésistes, un peu expliquer mon parcours et tout ça. Et puis, rediscuter avec le médecin. Il m'a dit, bon, on va déjà, ils ont ce qu'ils appellent une table de torsion. Il m'a dit, on va déjà essayer avec ça. Et puis, après, bon, on verra. C'est en ouvrant qu'on verra ce qui se passe, quoi. Et puis il m'a dit il y aura la prothèse et puis une plaque qui seront prêtes à être utilisées en fonction. Et puis voilà, bon, il y a eu l'opération. Puis quand je me suis réveillé, il m'a dit, ben voilà, la table de torsion, on a essayé, mais ça n'a rien donné. Et puis ben, on vous a mis la plaque, quoi. J'ai échappé à la prothèse, mais j'ai la plaque que j'ai encore actuellement.
Une prise en charge rapide d'une fracture de fatigue permet généralement de limiter les complications.
Si on traîne trop, ça va prolonger le temps de guérison. Parce que, en fait, dans notre société actuelle, on n'aime pas trop parce qu'on est tous impatients, disons, donc on veut que ça guérisse le plus vite possible. Après, il y a différentes, en fonction de la fracture ou de la localisation de la fracture, ben, vous avez des fractures qui sont plutôt à faible risque de pouvoir causer des complications. Il y en a d'autres qui sont plutôt à risque élevé de causer des complications. Si vous avez maintenant une fracture de fatigue, je dis du deuxième ou du troisième métatarsien au niveau du pied, à part que vous avez des douleurs et que ça va vous embêter, vous ne risquez pas grand-chose. Au pire, même si le métatarsien est cassé, ben à ce moment-là, au plus tard, on va le diagnostiquer et puis on va le mettre au repos, il va consolider, a priori, il n'y aura pas de séquelles. C'est tout à fait différent si vous avez la même chose au niveau du col de fémur. Surtout si c'est du côté supérieur du col où vous avez des forces de traction, ben, si là vous tardez trop et que la fracture se complète, ben, vous pouvez finir avec une fracture déplacée du col de fémur. Et ça augmente en fait le risque de faire une complication au niveau de la vascularisation de la tête du fémur, c'est-à-dire que la tête du fémur ne soit plus irriguée par le sang, ce qui peut engendrer ce qu'on appelle une nécrose de la tête fémorale, c'est-à-dire que la tête fémorale, elle meurt. Et le seul traitement qui existe pour ça, c'est une prothèse de hanche. Et ça, si vous avez ça chez, par exemple, une jeune recrue militaire de 20 ans, ben, c'est catastrophique. Donc d'où c'est très important de le diagnostiquer rapidement. Et d'ailleurs, pour revenir sur les exemples finlandais, ben, eux, après avoir mis en route un programme de dépistage systématique, ben, ils ont pu diminuer le risque, alors, premièrement le risque de développement d'une fracture de fatigue au niveau typiquement du col de fémur, ils ont pu le diminuer d'un certain pourcentage, mais surtout ils ont pu clairement diminuer le risque de complications parce qu'ils ont fait un diagnostic précoce et puis ben, ils ont pu éviter que ces fractures se déplacent finalement. Ils ont pu les diagnostiquer à un moment précoce de l'apparition avant qu'il y ait ces complications potentielles.
Et Laurent n'est pas au bout de ses émotions. Alors âgé de 50 ans, on veut exclure tout autre problème osseux chez lui.
Après, ben, j'ai eu un médecin des maladies osseuses qui est arrivé, enfin qui est venu me trouver. Il m'a dit, ben voyons, on va quand même faire quelques examens, tout ça. Puis là, j'ai commencé à flipper un petit peu parce que moi, j'ai dit, ben voilà, c'est une des causes de fracture de fatigue, ça pourrait être des métastases, quoi. Donc là, c'est vrai que ça a été un peu le gros. Ouais, c'est un peu. Puis bon, ben, heureusement, c'était pas ça, quoi. Ben ouais, parce que ça, voilà, ça sera quand même après. Bon, je revis normalement maintenant, j'ai même pu recourir. Enfin, j'ai recommencé par du vélo. Mais voilà, c'est un changement de la vie quand même, quoi. Et on pense toujours que ça arrive qu'aux autres, quoi. Après, j'ai dû faire des injections d'Aclastin. C'est une injection que j'ai dû faire pendant 3 ans. J'étais un peu limite au niveau, en tout cas, du bassin, au niveau de l'ostéoporose, des choses comme ça. J'avais pas d'ostéoporose, il parlait d'ostéopénie, je crois, si je me rappelle bien. Mais j'ai quand même dû faire ça pour... Et puis maintenant, je prends des pastilles tous les jours pour le calcifus, quand même pour consolider les os. Même s'il n'y avait pas d'ostéoporose, mais voilà.
Il y a deux types de facteurs de risque. Il y a les facteurs de risque intrinsèques et puis il y a les facteurs de risque extrinsèques. Donc les facteurs de risque intrinsèques, c'est ceux a priori qu'on ne peut pas modifier, qui sont innés à nous. C'est par exemple le sexe féminin, c'est l'origine caucasienne, donc chez le blanc, c'est l'âge. Plus on vieillit, a priori, plus le risque il augmente. C'est a priori aussi les gens de grande taille, c'est-à-dire si on a un ratio entre la longueur et la largeur de l'os qui est plutôt défavorable, disons en faveur de donc la largeur est petite par rapport à la longueur. Et puis apparemment aussi en ce qui concerne les fractures de fatigue au niveau du bassin, c'est-à-dire par exemple le pubis ou comme ça, c'est un bassin large. Puis aussi en fonction, parce que le bassin large, il provoque souvent une statique différente au niveau des membres inférieurs qui apparemment peut favoriser l'apparition d'une fracture de fatigue. Après, il y a les risques intrinsèques. Donc, c'est comme j'ai déjà dit, c'est la forme physique diminuée, donc l'inactivité physique préalable, et soudainement, on augmente du jour au lendemain l'intensité ou la durée des entrées ou des séances sportives qu'on fait. Après, c'est le type de sport. C'est clair que la course à pied est plus à risque que le vélo, par exemple, ou la natation. En revenant sur la course à pied, c'est le régime d'entraînement, donc la durée, l'intensité, mais aussi la surface sur laquelle on s'entraîne. C'est certainement plus à risque de courir tout le temps sur le béton ou le macadam que de courir en forêt. L'abus de substances nocives l'alcool, tabac, mais aussi stéroïdes, et surtout l'abus de stéroïdes qui apparemment est plus important dans la population sportive amateur que chez les professionnels qui sont beaucoup plus surveillés par rapport à ça. La carence en vitamine D ou en calcium. Et puis, a priori, bien sûr, en course à pied, le chaussage aussi, qui est très important.
Après une rééducation de plusieurs mois, Laurent peut rechausser ses baskets.
Étonnamment, j'ai pu recourir beaucoup moins qu'avant. J'essayais de faire 2 voire 3 entraînements par semaine entre 6 et 8 kilomètres. J'ai recouru le plus que j'ai fait. Ben, j'ai fait une course virtuelle, enfin, qui est une course que j'organise moi-même, de 13 kilomètres et demi, que j'étais content de pouvoir faire de bout en bout en courant, quoi. Et puis voilà, donc maintenant, ben, il y a aussi, j'ai aussi un peu des problèmes de dos qui font que je suis un petit peu freiné. Donc je vais faire de la. Je suis suivi par une ostéopathe. Peut-être que je referai un peu de physio. J'ai l'espoir de pouvoir en tout cas recourir un peu. Puis j'aime bien cette ambiance de Sarre. Donc j'aimerais bien pouvoir refaire deux, trois petites courses, quoi. Ce ne sera jamais au maximum 10 km, mais j'aimerais vraiment pouvoir refaire ça, quoi. Tant que je peux faire du sport, je le fais. Bon, je vais aussi marcher. Je suis un peu moins passionné par la marche. Mais enfin, si vraiment je devais être arrêté de plus courir, ben c'est là que j'irais. Mais mon sport, c'était la course à pied. Donc. De temps en temps, j'ai mal à la jambe. Le traumatisme, il est là quand même, hein, je pense. Donc, est-ce que je paye mes années de course à pied, là, quand j'étais beaucoup plus jeune, où je courais tout sur la route? On faisait pas tant de plein d'entraînement, on y allait un peu au feeling. Un jour ça allait, on y allait. Un jour ça allait moins bien, on allait moins loin. On n'avait pas les équipements qu'on a maintenant au niveau des chaussures. Hein. Bon, le reste d'équipement, c'est pas bien grave, mais les chaussures, on n'avait pas les chaussures qu'on a actuellement. Donc, est-ce que je repaye aussi ça, le nombre de kilomètres sur la route, quoi, sur le bitume?
Il faut éviter d'augmenter du jour au lendemain, par exemple, l'intensité ou la durée en course à pied. C'est-à-dire, si maintenant vous décidez aujourd'hui, je vais courir le marathon de, disons, Lausanne, qui est normalement en automne, donc d'ici une année, ben, vous ne pouvez pas commencer du jour au lendemain, si vous n'avez jamais pratiqué la course à pied, à commencer à courir 5 jours par semaine, je dis maintenant, même pas 5 km par jour, parce que vous n'allez probablement pas le supporter. Et vous risquez de développer effectivement une fracture de fatigue, que ce soit au niveau du pied, au niveau du tibia ou au niveau du col des fémurs. Donc il faut vraiment faire un programme adapté et puis qui augmente très très progressivement et normalement pas non plus augmenter simultanément l'intensité et la durée. Plutôt d'abord l'un, après diminuer à nouveau la durée, peut-être augmenter l'intensité, puis après de nouveau. Donc ça se fait par étapes. Et puis normalement, il y a même dans ces programmes des périodes aussi où vous faites de nouveau moins peut-être que ce que vous faisiez la semaine d'avant. Donc pour avoir vraiment quelque chose que le corps puisse y adapter progressivement.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur les fractures de fatigue dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.